Bonjour chers auditeurs, nous sommes à Jérusalem. Face à moi, j'ai un de mes bons professeurs de la prière juive. Il s'appelle Eliezer. Il va se présenter lui-même.
Oui, bonjour. D'abord, merci de m'inviter dans cette émission. Je suis chercheur en histoire et également professeur à l'université Ben-Gurion à Beersheba en Israël, ainsi qu'à l'Institut Albert de Courtrai à Jérusalem.
Alors, nous sommes dans une période assez exceptionnelle pour les Juifs et pour les chrétiens. Pessah, la Pâque juive, la Pâque chrétienne. Notre but, ce serait tous les deux de voir un petit peu à quoi ça consiste. C'est quoi alors, Pessah ?
Effectivement, on est à quelques jours et ici, l'atmosphère à Jérusalem montre bien que tout le monde est en train de préparer la grande soirée de Pessah qui aura lieu cette année vendredi soir et le samedi. La fête de Pâques, Pessah, c'est une fête qui a une origine que tout le monde connaît, biblique. On le retrouve dans le livre de l'Exode. Un chapitre, le 12e, qui est lu et partagé aussi bien par la tradition liturgique juive que la tradition liturgique chrétienne. Et dans ce chapitre, on nous explique très clairement en quoi consiste ce Pessah historique, ce premier Pessah, première fête de Pâques dans l'histoire du peuple juif. C'était au moment de la sortie d'Égypte. Le calendrier juif place cette année en l'an 2448 de la création du monde. On est cette année en 5772, ce qui fait à peu près au XIIIe siècle avant l'ère chrétienne. Ce Pessah-là, c'est connu, Moïse qui fait sortir les enfants d'Israël, d'Égypte. L'élément le plus important, c'est l'agneau, le sacrifice pascal.
Alors, donc si je comprends bien, Pessah, ça veut dire passage.
C'est ça. On ne connaît pas exactement le sens, l'étymologie, mais les commentateurs penchent pour dire que ça se rapproche de l'idée de passer outre.
D'accord. Et c'est cet événement dont on veut faire mémoire et qui va se vivre au début, le premier jour, c'est vendredi.
C'est vendredi soir.
Donc aujourd'hui même.
Exactement. Donc, maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas le même Pessah que celui de la sortie d'Égypte.
Expliquez-toi mieux, alors.
Voilà, il y a une différence entre ce Pessah historique que vous connaissez, qu'on peut lire dans la Bible, et le Pessah qui, aujourd'hui, anime toutes les familles juives. Et c'est une véritable fête familiale. Les gens se retrouvent, sont assis à table, et il y a un véritable repas accompagné de bénédictions, de prières, de discussions. C'est une des fêtes les plus importantes du calendrier juif et accompagnée de tout un récit qui a été codifié il y a plusieurs siècles. C'est à peu près à la période de la destruction du Second Temple, donc en l'an 70, que le texte de la Haggadah, le récit de la sortie d'Égypte, a commencé à être mis par écrit et transmis de génération en génération et lu chaque fête de Pessah.
Notre Jésus juif a connu cette fête ?
La fête, bien sûr, c'est une des fêtes bibliques qui était déjà célébrée à l'époque de Jésus, avec la fête de Pentecôte, Shavuot en hébreu, et la fête de Soukhot, la fête des cabanes, qui a lieu à l'automne. La fête de Pessah, Jésus l'a connue, comme tous les juifs pratiquants de son époque, avec cette particularité, le temple existait à Jérusalem. Et donc tout juif adulte avait l'obligation de monter à Jérusalem pour la fête de Pessah, comme toutes les trois fêtes que je viens d'évoquer tout à l'heure, mais également pour y faire le fameux sacrifice de l'agneau pascal.
C'est signalé d'ailleurs dans Saint Jean que Jésus a été pour la fête de la Pâque juive. Alors, en quoi ça consistait ?
Alors, à l'époque, il faut imaginer que les familles déléguaient un des membres, en général le père, le chef de famille, qui pouvait s'associer avec d'autres hommes adultes, et il devait monter pendant un temps très précis de la journée de la veille de la fête de Pessah, monter sur le mont du Temple, dans un espace réservé, qui n'était pas très grand, mais il faut imaginer que tout le monde devait venir à ce moment-là pour, et c'est la seule fois où un juif venait lui-même faire un sacrifice, y faire le sacrifice d'un agneau.
Pourquoi le sacrifice d'un agneau ?
Alors justement, c'est en référence, en souvenir, à cette fameuse sortie d'Égypte dans laquelle Dieu a demandé aux enfants d'Israël de faire ce sacrifice. Alors, une des explications, il y en a beaucoup, mais une des explications, c'est pour, à l'époque de la sortie d'Égypte, bien marquer la différence entre les enfants d'Israël fidèles à un seul Dieu et les Égyptiens qui entouraient les enfants d'Israël, polythéistes, et qui avaient plusieurs divinités, et notamment, ils mettaient dans l'agneau une forme de divinité, et pour lutter contre l'idolâtrie, eh bien, ils ont procédé à ce sacrifice. Alors, si on revient à l'époque de Jésus, le sacrifice est donc un souvenir, un rappel de ce Pessah historique.
D'accord. Plus concrètement, alors, comment ça se passe ? Ou comment ça se passait ?
Alors concrètement, il fallait monter à la fin de la journée, juste avant la tombée de la nuit et au moment où le soleil décline vraiment, donc un laps de temps très court, il devait monter, procéder au sacrifice, il égorgeait le mouton. Pendant ce temps-là, ceux qui accompagnaient entonnaient des chants de louanges, des psaumes, une série de psaumes qu'on appelle en hébreu le Hallel. Et après quoi, il fallait le consommer absolument d'une certaine manière, à savoir rôti, et dans le laps de temps de la nuit de Pessah. Ce qui veut dire qu'il y avait un deuxième temps à cette fête, et là on retrouve un point commun avec la fête actuelle, un repas familial avec des symboles comme les herbes amères et surtout le pain azim, la matzah, élément principal de la fête de Pâques.
Si j'ai bien compris, aujourd'hui, ce n'est pas tellement dans la synagogue, ce n'est pas tellement au kotel, au mur de occidental, mais c'est dans les familles.
Exactement, c'est une fête vraiment familiale. C'est-à-dire qu'il y a, comme pour toute fête, un temps de prière à la synagogue, qui n'est pas particulièrement long. L'essentiel se vit le soir en famille, et très tard, puisque les gens veillent jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin.
D'accord. Alors concrètement, c'est ce repas c'est familial. Ça se vit comment ?
Alors, ce repas, d'abord, il faut savoir que tout le monde y participe. Les papas, les mamans, les grands-parents, les oncles, les tantes, et surtout les enfants.
Autour de la même table.
Autour de la même table, car l'élément très important, c'est que cette soirée-là est une soirée pédagogique. Les adultes enseignent à leurs enfants ce que veut dire la fête de Pessah. Et la fête de Pessah, c'est la base de la foi juive.
Alors, c'est l'heure, c'est la nuit, le soleil est couché ou se couche. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, très rapidement, quand la famille revient de la synagogue, après avoir prié, on se met à table et on va suivre un ordre très précis, qui en hébreu s'appelle le Seder. Cet ordre va suivre des étapes, il y en a 15 au total, et vont s'articuler autour d'un repas de fête, et la consommation de ce pain azim.
Seder, ça s'écrit S-E-D-E-R.
Exactement, en français.
D'accord. Et alors, la composition de ce repas ?
Il y a une partie classique à toutes les fêtes. On commence une fête juive, qui débute d'ailleurs, vous avez noté, la veille au soir, commence par une bénédiction récitée sur une coupe de vin. Alors vous allez voir dans la soirée de Pessah, les coupes de vin ont une importance, et une importance depuis très longtemps. On en reparlera tout à l'heure. Mm-hmm. Donc cette première coupe de vin, on va réciter une bénédiction sur elle, qui est propre à un jour de fête juive. Donc un texte classique où on va demander la bénédiction de la part de Dieu, qui est le roi de l'univers, et particulièrement en cette fête de Pâques, fête des pains azim, qui est le temps de, on dit dans le texte de la prière, notre liberté. Un des qualificatifs de la fête de Pâques, c'est la liberté.
Cette bénédiction, elle est longue, tu peux nous en faire part ?
Alors si je vous donne la traduction en français directement, « Béni sois-tu, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a choisis parmi tous les peuples, qui nous a élevés au-dessus de toutes les langues et qui nous a sanctifiés par tes commandements. Tu nous as donné, notre Dieu, avec amour, des temps fixes pour la réjouissance, les fêtes et les périodes pour la joie. Cette fête des matzot, des pains azimes, temps de notre liberté, c'est une convocation sainte en souvenir de la sortie d'Égypte. Car tu nous as élus, nous as sanctifiés parmi tous les peuples, et nous as donné en héritage tes saintes fêtes dans la joie et l'allégresse. Béni sois-tu, notre Dieu, qui sanctifie Israël et les périodes de fêtes. »
Voilà, c'était donc la bénédiction là sur le vin. Peu importe, vin blanc, vin rouge, vin rosé, peu importe où c'est...
L'habitude veut que les gens prennent du jus de raisin ou du vin rouge. D'accord. Maintenant, il n'y a pas... D'accord. Peu importe.
Alors, ça c'est... La bénédiction est terminée. Qu'est-ce qu'il y a ensuite ?
Alors, la deuxième étape, donc on franchit cette étape. Il faut savoir que dans l'atmosphère de cette fête... À chaque étape, le chef de famille va reprendre le nom de ces étapes en hébreu et va les décliner, donc la première, la deuxième, puis on va passer à la troisième. Donc il y a tout un parcours à suivre. Et la première étape, c'est une ablution des mains qui est faite pour, à nouveau, étonner l'auditoire et les enfants en particulier. Pourquoi on va se laver les mains ? Donc une ablution des mains...
Oui, parce qu'on le fait avant d'habitude, avant d'être à table. Et là, ça fait partie du chemin. Là.
Ça fait partie, ça fait partie de ces étapes. Et effectivement, habituellement, l'ablution rituelle se fait avant de consommer du pain. À l'aide d'un récipient, les personnes qui vont consommer du pain versent de l'eau sur leurs mains et récitent une bénédiction... sur justement cette ablution des mains et passe à la consommation du pain. Là, il n'y a pas de consommation du pain. On passe à la troisième étape qui est le trempage d'un légume dans de l'eau salée.
Pourquoi ?
Et alors là, si vous êtes présent à la table d'un céder de Pessar, on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. On mange cette herbe qu'on trempe, c'est selon les habitudes un morceau de céleri, du persil, du cerfeuil, quelque chose qui n'est pas particulièrement délicieux, surtout si on mange juste trempé dans de l'eau salée, et on vient de se laver les mains avant, grand point d'interrogation. Et c'est le but, c'est de poser des questions. C'est que les enfants disent, mais pourquoi on fait ça ?
Alors dis-nous pourquoi.
Alors l'explication...
Pose la question, je suis l'enfant.
Alors voilà, si maintenant j'étais à la place du père de famille pour répondre à cette question, j'expliquerais que c'est pour se mettre en appétit, comme le faisaient les Romains à l'époque antique. L'habitude voulait, dans les repas romains, de commencer par une sorte de crudité, et qui n'était pas l'habitude juive. Mais là, ce soir de la fête de Pâques, on prenait l'habitude de ceux qui étaient les maîtres de l'époque, à savoir les Romains. Mmh. Première réponse. Deuxième réponse, on explique aux enfants que, à l'époque, il y a très longtemps, c'était une obligation, avant de consommer tout aliment comme des fruits ou des légumes qui avaient été mouillés ou trempés, de faire une ablution des mains. Donc on fait un souvenir sur un commandement qui avait lieu à l'époque du temple.
D'accord. Alors ce trempage de légumes dans l'eau salée est fini. Ensuite ?
Alors, quatrième étape, on découvre l'élément qui est au cœur de la soirée de Pessah aujourd'hui, c'est la matzah. On sort la matzah, le pain azim.
C'est quoi la matzah, voilà.
C'est le pain azim. Ce soir-là, il y en a trois. En général, les familles trois grandes matzot, pain azim, qui représentent les trois éléments du peuple juif, à savoir les familles de Cohen, les familles...
Cohen, c'est quoi ?
Les Cohen, c'est ceux qui, à l'époque du temple, étaient les grands prêtres, voilà. Et les prêtres. La famille des Lévis, donc ceux qui assistaient les prêtres dans le temple, et les troisièmes, donc ceux qu'on appelle Israël, c'est-à-dire tous les autres membres du peuple juif. Et là, ils sont tous les trois réunis, chacun avec leur particularité, tous les trois réunis dans cette soirée de Pessah. On les prend et on en brise une pour symboliser un aspect incomplet. La soirée, on n'est pas complètement unis. On le sera dans les temps à venir.
Pourquoi ? Parce que la brisure au rond-point-le-pin, c'est parce que en souvenir de cette libération qui n'est pas complète.
Exactement. Il y aura plusieurs libérations. On en a vécu deux historiques, sorties d'Égypte en particulier, et on verra, on attend deux autres libérations à venir.
Ah bon, c'est-à-dire ?
C'est l'époque messianique, et donc à l'époque messianique, on s'attend à une première libération, qui va être une libération matérielle, et une deuxième libération qui sera, elle, plus spirituelle et éternelle.
D'accord. Ensuite.
Ensuite, là commence ce qui est le plus long dans la soirée, c'est le récit de la Haggadah.
L'exode, quoi, au fond.
Donc, on reprend le Pessah historique, donc l'exode, particulièrement le chapitre 12, et on va le commenter. Et cette soirée, encore une fois, est faite pour que les enfants posent des questions. Et c'est pour ça que la première partie, c'est une chanson que tous les enfants apprennent et connaissent, et c'est en général à eux, d'ailleurs, dans une table familiale, de commencer par fredonner cet air populaire qui reprend des questions relatives à cette nuit spéciale de Pessah. Alors si je donne rapidement la traduction, cette chanson, c'est « Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits ?» Alors, une première réponse, c'est que toutes les autres nuits, on peut manger et du pain levé et du pain azim. Alors qu'à la nuit de Pessah, on ne mange que du pain azim. Toutes les autres nuits, on mange toutes sortes de légumes. Et cette nuit-là, on va manger que des herbes amères. Et toutes les autres nuits, on ne trempe ou on ne trempe pas. Là, on a à tremper les légumes dans l'eau. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et les autres nuits, on mange assis, droit. Peut-être accoudé pour ceux qui veulent. Mais là, cette soirée, on va manger accoudé. Alors, si on reprend ces éléments, peut-être...
Accoudé, ça veut dire, je crois, c'est le côté gauche.
Voilà, c'est-à-dire que, si vous connaissez la bande dessinée Astérix, hein, regardez comment les Romains sont assis à table. On ne va pas dire assis, ils sont couchés, allongés. Et bien là, c'est resté. Et aujourd'hui, les gens ont l'habitude, alors non pas de s'allonger comme à l'époque romaine, mais au moins de s'accouder du côté gauche pour consommer tous les éléments du Seder.
Bien. Ensuite.
Juste, je précise, encore une fois, c'est un symbole de liberté. Les Romains étaient ceux qui, à l'époque où la Haggadah était mise par écrit, représentaient le peuple qui dominait et qui avait cette dimension de liberté.
C'est dommage qu'on n'ait pas le temps parce que tu aurais pu presque le chanter, mais on va continuer. Donc ce rappel de la Haggadah, de l'Exode 12, est fait, avec les questions des enfants. Ensuite.
Alors après, il y a donc d'autres extraits. Évidemment, une soirée qui dure jusqu'à une heure, on ne va pas la résumer, on ne peut pas la refaire intégralement, mais elle se fait autour de l'idée du passage de l'esclavage en Égypte à la liberté. C'est le leitmotiv de cette soirée-là. Le deuxième élément, c'est rappeler l'importance de ce pain azim, cette matzah, et notamment sa dimension de pain de misère.
Voilà. Alors, ce pain azim, ça veut dire c'est sans levain.
Alors, c'est un pain qui a été fait dans la précipitation, le soir de la sortie d'Égypte dans le Pessah historique. Et ce pain qui est fait très rapidement n'a pas pu lever. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend la farine, on y met de l'eau et on a au total 18 minutes pour former les galettes toutes plates et ce qui donne à la fin ces fameux pains azim, ces matzot.
Tu as parlé de misère, pain de misère, c'est le même, c'est autre chose ?
Alors le pain de misère, effectivement, c'est une des manières d'appeler la matzah, le pain azim, pour le soir de Pessah. Pourquoi on l'appelle comme ça ? Alors, il y a plusieurs explications possibles qu'on peut donner. C'est tout d'abord, le pain de misère, c'est le pain du pauvre, c'est-à-dire c'est pas grand-chose. Et on dit par là qu'on mange pas grand-chose, mais que ça nous suffit amplement pour être comblé des grâces de Dieu pour la libération du peuple d'Israël.
On le met où ce pain? Sous la table, au milieu, caché, comment?
Alors ça dépend à quel moment vous arrivez dans le Seder. Il est effectivement sur la table. Il va être couvert, découvert selon les moments. Voilà. Et il y en a un morceau, ce qui fait l'amusement des enfants, qui est caché quelque part. Soit quelque part dans la maison, soit quelque part sous la nappe de dans la table, et qui sera consommé à la fin du Seder, donc à la fin du repas.
D'accord. Ensuite.
Alors, ensuite, on arrive, une fois ce récit entamé, on va passer cette fois-ci à trois étapes pour consommer ce pain azim, donc c'est l'élément au cœur de la soirée. Et puis, on va consommer d'autres plats qui sont présents sur la table. Parce qu'il faut imaginer une table dressée avec au milieu un grand plateau sur lequel on a mis tous les éléments qui vont être utiles à cette soirée. Alors, on a déjà évoqué les herbes pour tremper dans l'eau salée. On a évoqué les pains azim. Maintenant, il y a d'autres éléments.
Alors, quels sont-ils ces éléments?
Alors, on va peut-être commencer par les deux éléments qu'on ne va pas manger, qui sont symboliques. Mais... c'est l'œuf. Et un os.
Un œuf comment? Un œuf dur? Un œuf cuit?
C'est un œuf en général dur. Et à côté, donc, un morceau d'œuf. Un morceau d'os. Ça peut être un os de poulet ou un os d'agneau, peu importe. Ça dépend des habitudes familiales.
Pourquoi un os?
Alors, ce sont deux symboles qui évoquent la sortie d'Égypte et la manière dont Dieu nous a sortis d'Égypte. L'os, c'est un élément qui rappelle le bras, c'est-à-dire le bras fort de Dieu qui, avec la rigueur et la justice, a sorti les enfants d'Israël de l'esclavage et les a conduits hors d'Égypte. Mais, comme toujours dans le judaïsme, il y a le contrebalancier. C'est-à-dire que d'un côté, il y a cette justice un peu rigoureuse, mais de l'autre côté, il va y avoir l'œuf qui va symboliser plus la tendresse, l'aspect... plus miséricordieux de Dieu qui va s'accoler avec cette dimension de rigueur.
Donc ce sont les deux choses qu'on ne mange pas, l'œuf et l'os.
Voilà, c'est, évidemment, ce sont des symboles qui sont expliqués dans la soirée.
Alors il y a d'autres éléments.
Et, oui.
Tu peux nous les dire.
Alors ces éléments, alors encore une fois, il y a ces fameuses herbes qu'on a consommé au tout début de la soirée. Et puis, il y a ce qu'on appelle les herbes amères, qu'on retrouve dans l'Exode 12, et qui, là, vont être consommées juste après le pain azim. En hébreu, ça s'appelle le maror.
C'est quoi?
Alors, selon les familles, vous allez trouver différents éléments. Ça doit être quelque chose d'amer. Alors, dans les familles juives alsaciennes, vous retrouvez le réfor. Sinon, vous trouvez en général dans les familles d'Afrique du Nord plutôt de la laitue romaine ou des radis. Peu importe, il faut que ce soit quelque chose d'amer, qui au début a un bon goût, un peu comme l'esclavage en apparence. Hein, on est blanchi, nourri et logé aux frais du pharaon. Et en fait, on s'aperçoit très vite que c'est très amer, c'est très dur, c'est la souffrance de cette période-là.
Ça, c'est
le maror qu'on retrouve sur le plateau.
Est-ce qu'il y a autre chose?
Après, il y a deux autres éléments. Il y a un souvenir de ces briques qui étaient faites par les Hébreux en esclavage. Et donc, il y a une espèce de pâte un petit peu dure, mais en général sucrée, qu'on va, à un moment donné, manger avec ces herbes amères pour atténuer le goût. Si vous avez goûté le réfort une fois dans votre vie, vous savez qu'il faut apprécier la sensation de la moutarde forte.
D'accord. Et comment ça s'appelle?
Alors, ça s'appelle Haoset.
D'accord.
Et après, vous avez un dernier élément. Donc là aussi, c'est, selon les familles, ça peut être de la salade, Hazeret, qui va être utilisée quand on va faire un sandwich. Puisque dans l'étape qui suit la consommation des herbes amères, il y avait un doute de savoir s'il fallait le manger avec le pain azim ou séparé du pain azim. Si vous reprenez le texte dans l'Exode, vous verrez qu'on va parler de l'agneau pascal, on parle ensuite des herbes amères et on parle de ce pain azim. Alors est-ce qu'il fallait le manger ensemble ou séparément? Et donc, au cas où il fallait le manger ensemble, on fait un sandwich avec tout.
D'accord, tout le monde est d'accord.
Comme ça, tout le monde est content.
Voilà, pour le plat, je crois que c'est tout, là, on a tout dit.
Pour le plateau, c'est tout.
Et alors après ça?
Et après, eh bien, il y a un élément qu'on retrouve dans toutes les fêtes, hein, un repas.
Normal.
Un repas, voilà, normal, un repas de fête. Là aussi, les habitudes familiales varient.
Et là, on peut prendre quelque chose de levé, non?
Ah non.
Là, toujours sans levain, c'est toute la...
Pendant les 7 jours que dure la fête de Pâques, on ne mange pas de pain levé et de tout aliment fabriqué avec tout type de levain.
D'accord. Alors, le repas de fête, voilà, se fait.
Donc après, on a la conclusion du repas. On va manger ce fameux morceau de pain azyme qu'on avait caché au début. On va le ressortir, on va le consommer, parce que ça sera le dernier élément qu'on va manger et qu'on va garder en bouche, au moins dans le goût, bien sûr, pendant toute la nuit, pour montrer qu'on a consommé ce fameux pain azyme.
Ça se termine ainsi ?
Après, on va faire les bénédictions ordinaires après le repas, puis réciter des psaumes de louange et conclure la soirée.
Il y a un psaume qui revient souvent, psaume de louange, tu viens de dire.
Alors, c'est ces chapitres dans ce qu'on appelle le Hallel. Donc, ce sont des psaumes qui...
Le 115.
C'est des psaumes de louange. C'est ce qu'on appelle les psaumes de louange. Alors, qu'on retrouve également classiquement dans toutes les Bibles où on retrouve les psaumes, hein, c'est la série des psaumes 105, 6, 7 et suivants.
Très bien. Ainsi se termine le céder.
Et ça, le céder se termine ainsi.
Il y a une histoire aussi de coupe. Tu en as parlé un peu au début. J'aimerais que tu expliques les quatre coupes.
Ah, effectivement, pendant ce repas, on a eu à quatre moments différents quatre coupes de vin ou de jus de raisin à consommer, qui symbolisent la libération.
La première, c'est celle de...
Alors, la première, c'est celle qui rappelle la sortie d'Égypte. Et les dernières, c'est celles qui vont espérer les libérations futures, les temps messianiques.
Les deux dont tu as parlé tout à l'heure, d'accord, matériel et l'autre plus spirituel. Il y avait des choses que tu voulais dire par rapport à ce repas.
Si on continue peut-être un peu sur ces coupes, il faut savoir qu'il y en a deux en fait qu'il y aurait eu quoi qu'il arrive, qu'on soit un soir de Pessah ou d'une autre fête. C'est celle la toute première dont on a parlé, c'est cette sanctification sur cette bénédiction sur le vin, et puis celle qui accompagne les bénédictions d'après le repas. Là, dans tous les cas de figure, il y aurait eu ces coupes. Les deux autres, c'est les deux qui symbolisent la liberté de la sortie d'Égypte et la liberté à venir. Alors maintenant, il y a une cinquième coupe,
voilà,
traditionnelle.
Qui est énigmatique un petit peu, précise un petit peu plus.
Alors cette cinquième coupe, elle est versée à la fin du Seder et elle symbolise la coupe du prophète Élie.
Qu'est-ce qu'il vient faire, Élie, là ?
Alors il vient accompagner un moment... un moment où tout le peuple d'Israël est réuni chacun à sa table, et par la présence de cette coupe, symboliquement, il est présent. Maintenant, c'est aussi une dimension de libération. On dit dans la tradition juive que Élie sera celui qui annoncera la venue du Messie et celui qui répondra à toutes les questions dont on ne sait pas répondre encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que, symboliquement, dans ce repas qui symbolise la libération, eh bien, il est invité. Alors, on espère qu'un jour, il viendra et qu'il prendra cette coupe symboliquement et qu'il pourra indiquer à tout le monde le chemin à suivre.
Ça fait plus de 30 minutes que nous parlons. Justement, c'est cette coupe d'Élie, moi, j'avais appris que c'est cette coupe-là que Jésus aurait prise. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'abord? Et puis... l'ensemble des Juifs par rapport à cela
Alors l'ensemble, je ne sais pas, je ne me prononcerai peut-être pas pour l'ensemble des Juifs, mais ce que je peux dire, c'est que tout d'abord, cette coupe, elle peut être consommée. En général, c'est soit les enfants qui vont la consommer, certaines familles ont l'habitude de la garder pour le lendemain matin, lorsqu'il y aura la bénédiction sur le vin. Maintenant, évidemment, dans la symbolique que ça peut représenter par rapport à la personne de Jésus, la réponse chrétienne ne sera pas forcément celle juive, bien sûr.
Très bien. On a tout dit, d'après toi, de l'ensemble de ce top départ de la Pâque juive ?
Il y aurait beaucoup à dire, mais je crois qu'on a vu l'essentiel des messages portés par cette soirée de fête familiale, pédagogique, et de rappel de la libération, et de la libération passée et celle à venir.
Alors je te remercie Eliezer. C'était un reportage qui va permettre, je crois, à tous ces Occidentaux des Pyrénées de comprendre, j'allais dire de communier à cette Pâque juive et peut-être aussi de communier à cette Pâque chrétienne, puisque nous nous sommes greffés du même tronc, j'allais dire. Alors, bonne fête, Pascal, aux uns et aux autres. Merci encore, Eliezer.